Le rendement du capital au début du XXIe siècle. Comment est déterminé le rendement pur du capital, c'est-à-dire ce que rapporte annuellement le capital après avoir déduit tous les frais de gestion et le temps passé à gérer son portefeuille sous toutes ses formes? Et pourquoi aurait-il légèrement baissé sur très longue période, passant approximativement de 4-5% à l'époque de Balzac et Jane Austen à environ 3-4% aujourd'hui? Avant de tenter de répondre à cette interrogation, une question importante doit être clarifiée. Certains lecteurs trouvent peut-être que ce rendement moyen de 3-4% en vigueur au début des années 2010 est bien optimiste, par comparaison au malheureux rendement qu'ils obtiennent eux-mêmes pour leurs pauvres économies. Plusieurs points doivent toutefois être précisés. Tout d'abord, les niveaux indiqués sur les graphiques 6.3-6.4 correspondent à des rendements avant toute forme d'imposition. Autrement dit, il s'agit des rendements qui seraient obtenus par les détenteurs du capital s'il n'existait aucune forme d'imposition sur le capital et sur ses revenus pour une quantité donnée de capital. Nous reviendrons de façon détaillée dans la dernière partie de ce livre sur le rôle que ces impôts ont joué dans le passé et sur le rôle qu'ils peuvent jouer à l'avenir dans le cadre de la concurrence fiscale exacerbée entre États. À ce stade, contentons-nous de noter que la pression fiscale en général était presque insignifiante au XVIIIe et XIXe siècle et nettement plus élevée au XXe et en ce début de XXIe siècle, si bien que le rendement moyen après impôt a nettement plus baissé sur longue période que le rendement moyen avant impôt. Aujourd'hui, le niveau des impôts sur le capital et ses revenus peut certes être assez faible lorsqu'on pratique la bonne stratégie d'optimisation fiscale. Certains investisseurs particulièrement persuasifs parviennent même à obtenir des subventions. Mais ils sont tout à fait substantiels dans la majorité des cas. En particulier, il est important d'avoir présent à l'esprit qu'il existe bien d'autres impôts que l'impôt sur le revenu à prendre en compte. Par exemple, la taxe foncière réduit sensiblement le rendement du capital immobilier, et l'impôt sur les sociétés fait de même pour les revenus du capital financier investi dans les entreprises. Ce n'est que si l'ensemble de ces impôts étaient supprimés, cela arrivera peut-être un jour, mais nous en sommes tout de même assez loin, que les rendements du capital effectivement perçus par les propriétaires atteindraient les niveaux indiqués sur les graphiques 6.3-6.4. Tous impôts confondus, le taux moyen d'imposition pesant sur les revenus du capital est actuellement de l'ordre de 30% dans la plupart des pays riches. Voici la première raison qui introduit un écart important entre le rendement économique pur du capital et le rendement effectivement perçu par les personnes concernées. Le second point qu'il nous faut de nouveau rappeler est que ce rendement pur de l'ordre de 3-4% est une moyenne qui dissimule d'énormes disparités. Pour tous ceux qui ont comme seul capital un peu d'argent sur leur compte chèque, le rendement est négatif, puisque les sommes en question ne touchent aucun intérêt et sont grignotées chaque année par l'inflation. Les livrets et comptes d'épargne rapportent souvent à peine plus que l'inflation. Le livret A rapporte un taux d'intérêt nominal d'à peine 2% en France en 2013, soit un rendement réel proche de 0%. Mais le fait notable est que même si ces personnes sont importantes en nombre, ce qu'elles possèdent est relativement réduit en masse. Rappelons que le patrimoine dans les pays riches se partage actuellement en deux moitiés approximativement égales ou comparables, l'immobilier et les actifs financiers. Au sein des actifs financiers, les actions, obligations et placements, plans d'épargne et contrats financiers à long terme, par exemple de type assurance vie ou fonds de pension, représentent la quasi-totalité des masses en jeu. Les sommes détenues sur les comptes chèques non rémunérés représentent généralement l'équivalent d'à peine 10-20% du revenu national, soit tout au plus 3-4% du total des patrimoines, qui, rappelons-le, représentent entre 500 et 600% du revenu national. Si l'on ajoute les livrets d'épargne, alors on atteint guère plus de 30% du revenu national, soit à peine plus de 5% de la totalité des patrimoines. Le fait que les comptes chèques et livrets d'épargne ne rapportent que de très maigres intérêts n'est évidemment pas un détail pour les personnes concernées. Mais du point de vue du rendement moyen du capital, ce fait n'a somme toute qu'une importance limitée. Du point de vue du rendement moyen, il est beaucoup plus important de noter que la valeur locative annuelle de l'immobilier d'habitation, la moitié des patrimoines, représente généralement de l'ordre de 3-4% du prix des biens. Un appartement de 500 000 euros rapporte par exemple un loyer de l'ordre de 15 000, 20 000 euros par an, autour de 1 500 euros par mois, ou permet d'économiser un tel loyer pour ceux qui choisissent de l'habiter eux-mêmes, ce qui revient au même. Cela vaut aussi pour les patrimoines immobiliers plus modestes. Un appartement de 100 000 euros rapporte, ou permet d'éviter d'avoir à payer, un loyer d'environ 3 000 euros ou 4 000 euros par an, voire davantage. Ainsi que nous l'avons déjà noté, le rendement locatif atteint parfois 5% sur les petites surfaces. Les rendements obtenus sur les placements financiers, prédominants au sein des patrimoines les plus importants, sont plus élevés encore. C'est l'ensemble de ces placements immobiliers et financiers qui, en masse, représentent la plus grande partie des patrimoines privés, qui tirent vers le haut le rendement moyen. Actifs réels et actifs nominaux. Le troisième point qui mérite d'être précisé est que les taux de rendement indiqués sur les graphiques 6.3-6.4 doivent absolument être considérés comme des rendements réels. Autrement dit, il serait tout à fait erroné de vouloir déduire le taux d'inflation, typiquement 1%-2% par an dans les pays riches actuellement, de ces rendements. La raison en est simple et vient d'être évoquée. Dans leur immense majorité, les éléments de patrimoine que détiennent les ménages sont des actifs réels, c'est-à-dire des actifs se rapportant à une activité économique réelle, comme l'immobilier d'habitation ou les actions, et dont le prix évolue donc en fonction de l'évolution de cette activité, et non des actifs nominaux, c'est-à-dire dont la valeur est fixée à la valeur nominale initiale, comme l'argent placé sur un compte chèque, un livret d'épargne ou un bon du trésor non indexé sur l'inflation. La caractéristique des actifs nominaux est d'être soumis à un fort risque inflationniste. Quand on place 10 000 euros sur un compte chèque, un livret d'épargne ou une obligation publique ou privée non indexée, alors ce placement vaut toujours 10 000 euros 10 ans plus tard, même si entre-temps les prix à la consommation ont doublé. Dans ce cas, on dit que la valeur réelle du placement a été divisée par 2. On peut s'acheter 2 fois moins de biens et services qu'avec la somme initialement placée. Cela correspond à un rendement négatif de moins 50% sur 10 ans, qui peut ou non être compensé par les intérêts obtenus au cours de cette période. En général, dans des périodes de forte hausse des prix, le taux d'intérêt nominal, c'est-à-dire avant déduction de l'inflation, monte à des niveaux élevés et le plus souvent à des niveaux supérieurs à l'inflation. Mais tout dépend de la date à laquelle le placement a été réalisé, des anticipations d'inflation que formaient les uns et les autres à ce moment-là, etc. Suivant les cas, le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le rendement réellement obtenu après déduction du taux d'inflation, peut être fortement négatif ou fortement positif. Par exemple, un taux d'intérêt nominal de 5% avec une inflation de 10% correspond à un taux d'intérêt réel de moins 5%, alors qu'un taux d'intérêt nominal de 15% avec une inflation de 5% correspond à un taux d'intérêt réel de plus 10%. En tout état de cause, il faut déduire l'inflation des intérêts pour connaître le rendement réel d'un actif nominal. Il en va tout à fait différemment pour les actifs réels. Le prix des biens immobiliers, de même que le prix des actions, des parts d'entreprise ou des multiples placements financiers et fonds communs de placement investis sur les marchés boursiers, progressent généralement au moins aussi vite que l'indice de prix à la consommation. Autrement dit, non seulement il ne faut pas déduire l'inflation des loyers ou des dividendes perçus chaque année, mais il faut souvent ajouter à ce rendement annuel une plus-value lors de la revente de l'actif, ou parfois déduire une moins-value. Or, le fait essentiel est que ces actifs réels sont beaucoup plus représentatifs que les actifs nominaux. Ils représentent en général plus des 3/4 des actifs totaux détenus par les ménages et parfois les 9/10. Les actifs immobiliers représentent à eux seuls de l'ordre de la moitié des actifs totaux, et au sein des actifs financiers, les actifs réels représentent généralement plus de la moitié du total, et souvent plus des 3/4. Lorsque nous avons étudié l'accumulation du capital, dans le chapitre précédent, nous avons conclu que ces différents effets ont tendance à se compenser sur longue période. Concrètement, si l'on prend en compte l'ensemble des actifs, alors en moyenne, sur l'ensemble de la période 1910-2010, le prix des actifs semble avoir progressé au même rythme que l'indice des prix à la consommation, tout du moins en première approximation. Les plus-values ou moins-values peuvent certes être fortes pour telle ou telle catégorie d'actifs, en particulier les actifs nominaux génèrent structurellement des moins-values compensées par les plus-values des actifs réels et varient fortement suivant les périodes. Le prix relatif du capital a fortement baissé au cours des années 1910-1950, avant de remonter tendanciellement au cours des années 1950-2010. Dans ces conditions, l'approche la plus raisonnable consiste à considérer que les rendements moyens du capital indiqués sur les graphiques 6.3-6.4, obtenus, rappelons-le, en divisant le flux annuel de revenus du capital, loyers, dividendes, intérêts, profits, etc., par le stock de capital, donc sans prendre en compte les plus-values ni les moins-values, constituent une bonne estimation du rendement moyen du capital à long terme. Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, cette approche revient toutefois à intégrer dans le taux de rendement la plus-value structurelle correspondant à la capitalisation des bénéfices non distribués dans la valeur des actions, qui est un élément important du rendement des actions sur longue période. Bien entendu, cela ne dispense pas, lorsqu'on étudie le rendement d'un actif particulier, d'ajouter la plus-value ou de déduire la moins-value, par exemple de déduire l'inflation dans le cas d'un actif nominal. Mais cela n'aurait pas beaucoup de sens de déduire l'inflation de l'ensemble des rendements du capital sans ajouter les plus-values qui en moyenne équilibrent amplement les effets de l'inflation. Entendons-nous bien. Il ne s'agit évidemment pas de nier ici que l'inflation puisse parfois avoir des effets réels sur les patrimoines, leur rendement et leur répartition. Simplement, il s'agit davantage d'effets de redistribution au sein des patrimoines que d'effets structurels à long terme. Par exemple, nous avons vu que l'inflation avait joué un rôle central pour réduire à peu de choses la valeur des dettes publiques dans les pays riches à la suite des guerres du XXe siècle. Mais lorsque l'inflation se prolonge durablement à des niveaux élevés, les uns et les autres cherchent à s'en protéger en investissant dans des actifs réels. Or, tout laisse à penser que les patrimoines les plus importants sont souvent les mieux indexés et les plus diversifiés à long terme, et que les patrimoines modestes, typiquement les comptes chèques et les livrets d'épargne, sont les plus durement touchés. On pourrait certes soutenir l'idée selon laquelle le passage d'une inflation quasi nulle au XIXe et jusqu'au début du XXe siècle à une inflation à 2% à la fin du XXe et au début du XXIe siècle a conduit à une légère baisse du rendement pur du capital dans le sens où il est plus facile d'être un rentier dans un régime d'inflation nulle. Le patrimoine issu du passé ne court aucun risque d'être grignoté par l'inflation, alors qu'il faut aujourd'hui passer plus de temps à réallouer son patrimoine, ou à tout le moins à réfléchir à la bonne stratégie de placement. Mais là encore, il n'est pas sûr du tout que les patrimoines les plus élevés soient les plus durement touchés, ni que ce mécanisme soit le plus approprié pour atteindre cet objectif. Nous reviendrons sur cette question essentielle dans la prochaine partie, lorsque nous étudierons la façon dont les rendements effectivement obtenus par les uns et les autres varient avec le niveau de patrimoine, et dans la partie suivante, lorsque nous examinerons et comparerons les différentes institutions et politiques publiques susceptibles d'influer sur la répartition des richesses, au premier rang desquelles se trouvent l'impôt et l'inflation. À ce stade, notons simplement que l'inflation joue avant tout un rôle de redistribution au sein des détenteurs de patrimoine, un rôle parfois souhaitable, parfois moins, que l'éventuel impact de l'inflation sur le rendement moyen du capital ne peut en tout état de cause qu'être relativement limité et bien inférieur à l'effet nominal apparent. Autrement dit, le fait de faire passer l'inflation de 0% à 2% dans un monde où le rendement du capital était initialement de 4% n'est certainement pas équivalent à une taxe de 50% sur le rendement du capital, pour la bonne et simple raison que le prix des actifs immobiliers et boursiers se mettra lui aussi à croître de 2% par an et que seule une toute petite partie des actifs détenus par les ménages, en gros les encaisses monétaires et une partie des actifs nominaux, paiera la taxe inflationniste. À quoi sert le capital ? Nous venons de voir comment avait évolué le rendement du capital au cours de l'histoire, d'après les meilleures données dont nous disposons. Venons-en maintenant au mécanisme explicatif. Comment est déterminé le taux de rendement du capital en vigueur dans une société donnée ? Quelles sont les principales forces économiques et sociales en jeu ? Comment peut-on rendre compte des évolutions historiques observées? Et surtout, Que peut-on dire au sujet de l'évolution prévisible du taux de rendement du capital au XXIe siècle? D'après les modèles économiques les plus simples, et sous l'hypothèse d'une concurrence pure et parfaite sur le marché du capital comme sur le marché du travail, le taux de rendement du capital devrait être exactement égal à la productivité marginale du capital, c'est-à-dire la contribution d'une unité de capital supplémentaire au processus de production considéré. Dans des modèles plus complexes et plus réalistes, le taux de rendement du capital dépend également du pouvoir de négociation et des rapports de force entre les uns et les autres, et peut, suivant les situations et les secteurs, être plus élevé ou plus faible que la productivité marginale du capital, d'autant plus que cette dernière n'est pas toujours mesurable avec précision. Dans tous les cas, le taux de rendement du capital est notamment déterminé par les deux forces suivantes. D'une part, par la technologie, à quoi sert le capital, et d'autre part, par l'abondance du stock de capital. Trop de capital tue le capital. La technologie joue naturellement un rôle central. Si le capital ne sert à rien comme facteur de production, alors par définition, sa productivité marginale est nulle. Dans l'absolu, on peut tout à fait imaginer une société où le capital n'a aucune utilité dans le processus de production, où aucun investissement ne permet d'améliorer la productivité des terres agricoles, où aucun outil ou équipement ne permet de produire davantage, et où le fait de disposer d'un toit pour dormir n'apporte aucun bien-être supplémentaire par rapport au fait de coucher dehors. Peut-être néanmoins, le capital jouerait-il dans une telle société un rôle important comme pure réserve de valeur. Par exemple, chacun pourrait choisir d'accumuler des piles de nourriture, à supposer que les conditions de conservation le permettent, en prévision d'une éventuelle disette future, ou bien encore pour des raisons purement esthétiques, en y ajoutant peut-être, dans ce cas, des piles de bijoux et d'ornements divers. Dans l'absolu, rien n'interdit d'imaginer une société où le rapport capital-revenu bêta serait extrêmement élevé, mais où le rendement du capital R serait rigoureusement nul. Dans ce cas, la part du capital dans le revenu national alpha égale R multiplié par bêta serait elle aussi rigoureusement nulle. Dans une telle société, la totalité du revenu national et de la production irait au travail. Rien n'interdit de l'imaginer, mais dans toutes les sociétés humaines connues, y compris les plus archaïques, les choses se déroulent différemment. Dans toutes les civilisations, le capital remplit deux grandes fonctions économiques. D'une part pour se loger, c'est-à-dire pour produire des services de logement dont la valeur est mesurée par la valeur locative des habitations, c'est la valeur du bien-être apportée par le fait de dormir et vivre sous un toit plutôt que dehors. Et d'autre part, comme facteur de production pour produire d'autres biens et services, dont le processus de production peut nécessiter des terres agricoles, outils, bâtiments, bureaux, machines, équipements, brevets, etc. Historiquement, les premières formes d'accumulation capitalistique semblent concerner à la fois les outils, silex, etc., et les aménagements agricoles, clôture, irrigation, drainage, etc., ainsi que des rudiments d'habitation, grottes, tentes, cabanes, etc., avant de passer à des formes de plus en plus sophistiquées de capital industriel et professionnel et de locaux d'habitation sans cesse plus élaborés.